présence, 15h. De passage à Lourdes. De passage à Lourdes.
Nous avons appris le décès de l'écrivain, poète, homme de prière Philippe MacLeod. Décès survenu le 25 février dernier. Il était hospitalisé depuis plusieurs semaines en unité de soins palliatifs et ses proches témoignent que rien n'est venu troubler sa foi ni sa confiance dans ce qu'il avait à vivre. C'est serein, en paix, libre qu'il s'est éteint. En hommage, je vous propose de réécouter cette émission que nous avons enregistrée avec Philippe MacLeod en 2016 à l'occasion de la sortie de son dernier livre.
De passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier.
Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission un écrivain, un poète même, qui réside dans les Pyrénées, non loin de Lourdes, et qui s'appelle Philippe MacLeod. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. À l'occasion de la sortie de ce livre, paru chez Bayard, « Les signes de Lourdes, un chemin d'universalité ». La dernière fois que nous nous étions rencontrés dans ce studio, devant ce micro, Philippe MacLeod, vous étiez venu nous parler d'un livre qui s'intitulait « D'eau et de lumière » paru chez Ad Solem, c'était en 2010. Et déjà, vous vous intéressiez de façon profonde, poétique, presque charnelle à Lourdes, aux signes de Lourdes, ce que l'on appelle les signes de Lourdes. Et c'est d'ailleurs ce qui est au cœur de ce livre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Ce livre qui parle donc de l'eau, de la lumière, du vent, de la multitude, du rocher de Lourdes. Mais auparavant, avant d'entrer dans le cœur de ce qui fait cet ouvrage, j'aimerais que vous nous redisiez, vous, qui vous êtes, Philippe MacLeod. Vous vivez dans les Pyrénées, vous avez une vie contemplative. Vous êtes moine, vous n'êtes pas moine, vous êtes poète, écrivain, en solitude. Comment vous vous décririez ?
Oui, le plus simple, ça serait de dire je suis un homme de prière. Voilà, ça résume à peu près tout. C'est-à-dire que j'ai fait ce choix donc dans ma vie. Donc je suis laïque. Hein, je ne suis pas rattaché à une famille propre, mais j'ai fait ce choix d'une vie contemplative. Une vie contemplative, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est de mettre la prière au centre de sa vie. Donc évidemment, pour moi, ça a été synonyme de solitude, silence, donc dans les montagnes, là, à une demi-heure de Lourdes, mais sans pour autant me fermer. Voilà, c'est pas une solitude coupée, c'est un peu la solitude de la source qu'on retrouve ici à Lourdes, sur cette source qui naît des hauteurs souvent inaccessibles, mais qui descend pour irriguer les plaines. Voilà, donc c'est une solitude pour les autres, dont les livres sont les fruits.
Alors, à Lourdes, vous êtes rattaché à un lieu qui accueille du public, qui accueille des familles, qui accueille des pèlerins individuels. Et d'ailleurs, vous les remerciez. Vous dites tout au début à mes sœurs, les religieuses de l'Assomption, qui ont accueilli à Lourdes la nouveauté de ce cheminement.
Oui, parce que c'est vrai que c'est aussi un chemin d'amitié, parce que j'ai commencé à donner une première retraite en 2009, sur les signes de Lourdes, donc au centre Assomption, puis il y en a eu bien d'autres après, et c'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à ce dernier livre, puisque je l'ai largement étoffé. Mais au départ c'était ça, et puis depuis 2 ans, depuis l'année dernière, et on a mis en place aussi ce qu'on appelle le Lourdes Plus pour nos hôtes qui viennent donc, et qui sont désireux de découvrir Lourdes et son message par en entrant par des petites portes, des chemins de traverse. Oui, on développe simplement un aspect, mais toujours en intériorisant et en privilégiant aussi l'approche sensible du lieu, et puis des thèmes développés.
Alors, cette approche sensible du lieu, c'est vraiment au cœur de cet ouvrage. On va avoir l'occasion de découvrir les signes de Lourdes, où je vous invite vraiment à lire ce livre. Vous allez les découvrir comme peut-être vous ne les avez jamais découverts, d'abord à travers leur universalité. Mais auparavant, peut-être on peut rebaliser un certain nombre de choses, de dates ou des événements qui sont fondateurs à Lourdes. D'ailleurs, c'est dans l'annexe de ce livre, vous proposez un tableau des apparitions, avec un cycle. Comme d'ailleurs les cycles de la nature, on pourrait considérer qu'il y a là des termes hein, qui se rejoignent avec cet univers que vous nous permettez d'investir, la nature, l'environnement et bien au-delà. Lourdes, l'événement fondateur, on a l'habitude de dire que c'est le 11 février 1858, la première apparition. Il y a le vent, il y a l'apparition, il y a... C'est d'abord ça Lourdes, c'est les apparitions, oui.
Voilà, c'est ce cadre-là. Alors c'est vrai que j'ai mis en annexe ce tableau parce que dans le livre lui-même, je ne m'attache pas tellement à l'histoire des apparitions, bon que j'estime que beaucoup de pèlerins connaissent et peut-être même connaissent tellement qu'ils font plus attention à beaucoup de petits détails. Mais en revanche, en annexe, donc j'ai resitué un peu le cadre parce que de temps en temps, il faut quand même s'y replonger. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que je l'ai articulé parce que effectivement, ça n'est pas une ou deux. Après, on parle du 11. Après, il y a le 18. Et puis on oublie un peu le reste. Ou si on y fait référence, c'est de manière juxtaposée. Il y a une sorte de suite.
Il y a 18 rencontres.
Voilà, il y a 18 rencontres, et puis c'est tout. Puis après, quelques paroles, et puis terminé. Alors qu'en réalité, quand on regarde ça de près, d'une part, il y a une progression. C'est un cycle, mais on pourrait aussi, comme au Moyen-Âge, on appelait ça la geste. La geste qui était une sorte de grand déploiement. Et là, il y a cette forme-là où Marie fait cheminer Bernadette. Tout doucement, et à travers Bernadette, elle nous fait cheminer aussi à travers un message qui a pour point d'orgue, pour sommer cette dernière parole, hein, « Je suis l'Immaculée Conception ». Et ça, il ne faut pas l'oublier. Après cette parole, Marie se tait. Elle n'a plus rien à dire. Elle a tout dit. Mais pour entendre cette parole, il fallait toutes les autres paroles. Il fallait ce cycle des apparitions, ce cheminement vraiment pas à pas et très difficile, parce que on le verra. Pendant ce qu'on appelle la grande quinzaine, il y aura des moments très presque dramatiques où on voit Bernadette à genoux, qui comme les prophètes, vit aussi une sorte de parole dans sa chair à genoux. Elle creuse, son visage maculé de cette boue rougeâtre. Quand elle boit aussi les premières gorgées d'eau, vous voyez, c'est tout ça. Ça fait partie du message. Donc, moi, j'ai articulé ce grand cycle des apparitions en quatre parties. Il y a d'abord les deux premières rencontres, qui sont un peu les préliminaires, hein, le 11 et le 14 février. C'est une sorte d'invitation, d'introduction. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la grande quinzaine, là, du 18 au 4 mars, avec pratiquement la majorité des paroles, et puis là où on voit Bernadette presque mettre la main à la pâte, c'est-à-dire elle fait corps avec les paroles de la Vierge, elle les vit dans sa chair. Et ensuite, on a ce sommet, hein, le 25 mars, qui se détache nettement, qui est la révélation du nom. Il se détache d'autant mieux qu'après cette quinzaine, il y a 3 semaines de grand silence, de grand désert, où il ne se passe rien, il n'y a pas de parole, il n'y a plus d'apparition, et même, la foule est déçue, parce qu'après cette quinzaine, elle s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Et là, il ne se passe rien. Et Bernadette, voilà, elle aussi, et entre un peu dans ce désert, dans ce grand silence, dans un grand silence qui est aussi celui de la maturation, et puis, au bout, il y a, voilà, cette révélation du nom, et qui, comme dans la deuxième partie du livre l'explique, qui est un peu la fine pointe de ce message de Lourdes. Et après la révélation de ce nom, eh bien, il y a aussi ce retrait, hein, tout doucement, cet éloignement avec deux dernières apparitions, la fameuse qu'on appelle le miracle du cierge, donc qui est le 7 avril, et puis la toute dernière, le 16 juillet, qui se trouve de l'autre côté de la grotte, dans la prairie, et là qui signe déjà cet éloignement de Bernadette. Elle prend de la distance, elle rentre un peu dans cette mission maintenant qui va être la sienne, c'est de porter après avoir témoigné, de porter ce message de Lourdes jusque dans le silence de Nevers. Donc là on voit bien aussi comment la cohérence de ce cycle, parce que vous voyez que les deux dernières apparitions qui sont marquées par le silence et la lumière font écho aux deux premières qui elles aussi sont marquées par le silence et la lumière. C'est un peu, elles sont encadrées, il y a une sorte de, voilà, la boucle est refermée. Et là, et entre ces deux-là, on a un message qui se déploie peu à peu, mais qui est splendide. Vous voyez, j'aimerais pouvoir en parler.
Extraordinaire synthèse donc de ces événements de 1858 que vous venez de nous proposer. Et alors dans ce livre, ça va presque arriver comme un paradoxe, ma question par rapport à ce que vous venez de nous exposer, qui est ce que l'on sait de Lourdes. Les apparitions. Vous nous dites, pour commencer, discours de la méthode de Philippe MacLeod, eh bien, commencez par tout oublier. Oubliez tout sur Lourdes pour vraiment comprendre Lourdes. C'est dans les toutes premières pages. Pourquoi vous invitez à tout oublier? C'est-à-dire que tout ce qui s'est dit auparavant, bon, c'est un fardeau?
Non, alors ce qui s'est dit auparavant, et bon, on estime que c'est intégré. Voilà, donc il y a le côté historique hein, de Lourdes, effectivement, mais on risque aussi de tomber dans le ressassement de l'anecdotique, et puis se dire, bon, ben voilà, telle date, il s'est passé ci, Bernadette a fait cela, et puis on ne va pas plus loin et on n'entre jamais dans le message, finalement. Donc en fait, c'est oublier pour mieux y rentrer. Hein, c'est une sorte, bon, comme on dit, faire table rase pour y voir plus clair. Et puis aussi, c'est quelque chose que j'ai appris au contact de la grotte. Vous voyez, c'est quand on est dans ce lieu-là ouvert, avec ces signes en face, et puis ces signes qui entrent, qui font partie intégrante du message, pour vraiment les entendre, il faut un peu oublier ce qu'on sait d'eux. Ce qu'on sait sûr, ce qu'on a entendu, qui reste valable, mais c'est pour mieux sentir. En fait, c'est tout oublier pour mieux sentir, et puis, au bout du compte, c'est quitter un peu le savoir très extérieur pour entrer dans une appropriation personnelle de ce message de Lourdes qui vient nous rejoindre dans notre vie presque charnelle.
Nous nous arrêtons quelques instants, Philippe MacLeod. Juste avant cette pause, je redis que l'on vous doit ce livre, Les signes de Lourdes, un chemin d'universalité, paru chez Bayard. C'est vraiment un très bel ouvrage qui ne renie absolument pas tout ce qu'on l'on dit et tout ce qui s'est dit sur Lourdes par le passé, mais qui ose véritablement décaler le regard, ouvrir de nouvelles portes. Tracer de nouveaux chemins, comme vous savez le faire comme poète et écrivain. A tout de suite, Philippe MacLeod.
Pour mieux connaître Présence, tapez www.radioprésence.com.
De passage à Lourdes.
Aujourd'hui, nous vous proposons la rediffusion d'une émission réalisée avec l'écrivain Philippe MacLeod, qui est décédé le 25 février dernier. Vous êtes notre invité aujourd'hui, Philippe MacLeod, et vous venez particulièrement nous parler de ce livre, Les signes de Lourdes, un chemin d'universalité, paru chez Bayard. Juste avant la pause, vous en étiez à nous parler de ces signes et de leur extraordinaire cohérence à Lourdes. Vous nous disiez, au fond, il faut se rendre compte que ces signes ne sont pas juste là comme un catalogue de symboles, mais bien très cohérents les uns par rapport aux autres. Alors, on rappelle qu'à Lourdes, ce qu'on appelle les signes de Lourdes, c'est quoi ?
Alors, c'est, c'est avant tout, hein, parce que ils sont en majorité là, les signes naturels. Hein, c'est l'eau, hein, l'eau. Alors évidemment, qui est peut-être la première à Lourdes, la première réalité, hein, qu'on découvre, c'est avec cette source. Après, vous avez cette masse, donc la terre aussi est présente à travers cette masse, là, le rocher, hein, cette assise, c'est presque bon, cette matière aussi, cette inerte, cette opacité qui peut aussi nous renvoyer à nos propres pesanteurs. Donc vous voyez tout ça, vous sentez bien comment tout ça s'articule, parce que cette source, eh bien, elle naît du plus profond de ce rocher, tout au fond, c'est au fond de la grotte, il faut aller au fond, il faut oser aller au fond de cette inertie, de cette opacité, de cette épaisseur, de cette lourdeur, pour justement après que la source, dans cette agilité de la source, cette clarté, cette transparence jaillisse. Et ça, c'est une image fondamentale pour nous, parce que je veux dire, c'est aussi à notre échelle individuelle qu'on peut revivre ces signes. Donc moi j'aime beaucoup cette articulation entre l'eau, ce qu'elle dit, et puis le rocher, parce que c'est un peu comme des extrêmes, des opposés, mais qui là sont articulés. Et puis après vous avez aussi le signe de la lumière. De la lumière qui était là dès le début, parce que Marie apparaît dans une grande lumière, et Bernadette y revient très souvent dans le récit de ses apparitions. C'est fondamental, cette grande lumière qui vient la visiter et qui vient aussi chasser les ténèbres de sa vie, parce que n'oublions pas qu'à l'époque Bernadette vit dans le cachot, et pour les personnes qui connaissent le cachot, ben vous, on comprend très vite que la grotte et le cachot, c'est pareil. Parce que c'est aussi la grotte, c'est ce lieu insalubre, ce lieu où les cochons viennent déverser ils viennent s'abriter, là, laisser leur déjection, aussi le gave qui vient y laisser tous les détritus. Donc c'était l'endroit où justement les enfants pauvres pouvaient venir sans se faire rabrouer pour ramasser quelques bois morts, quelques os. Donc c'est un peu la grotte, c'est aussi l'image de cette vie de Bernadette au cachot, une vie fermée, sans issue, sombre, voilà. Et cette grotte sans issue, elle va s'ouvrir. Elle s'ouvre d'abord avec cette lumière de Marie, et qui en plus vient non pas dans un lieu princier, mais dans le lieu le plus affreux. Hein, de Lourdes, d'ailleurs, bon, Massabielle dit bien ce côté difficile. Et puis c'était aussi un juron. Mais toi, d'où tu sors? À l'époque, les enfants mal élevés, ils sortaient de Massabielle. C'était le voilà. Donc la Vierge vient là. Elle vient là justement pour renverser les choses, pour percer une brèche, une issue. Donc par cette lumière. Et puis cet autre signe qui est le vent, qui est aussi présent dès la première apparition, qui reste lui aussi présent actuellement, par justement ce côté ouvert, cette église ouverte à tout vent, cette église où on va, on vient, où les gens, les pèlerins d'aujourd'hui se sentent en grande liberté, parce que c'est aussi une église qui est ouverte sur le ciel, sur cette vie naturelle, dans ce qu'elle a de plus élémentaire. C'est pour ça qu'il est important de revenir à ces signes naturels, parce qu'ils nous enracinent dans notre vie, et cette vie sensible, cette vie qui est dans un lien direct avec la création.
Alors là aussi où vous osez d'une certaine façon une nouvelle pédagogie par rapport au signe de Lourdes, c'est que dans un premier temps, vous proposez de revisiter de façon très poétique d'ailleurs ces différents signes dont vous venez de parler, sans y mettre trop la foi, la question de la foi ou même l'interprétation à travers la foi. Vous osez l'universalité de ces signes. C'est un parti pris.
Oui. Oui, c'est un parti pris, parce que souvent, moi, je trouve qu'on met un peu la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on plaque du sens sur des signes, des choses qu'on n'a pas pris le temps de vivre. Par exemple, je prends l'eau. Si immédiatement on dit, bon, l'eau signe baptismal, c'est fini, je saute au centre, mais j'escamote un peu ce signe qui déjà, lui, est porteur de sens. Voilà, cette eau, il faut la contempler, il faut la regarder, il faut la sentir, on passe aux fontaines, on met un peu d'eau sur son visage, on sent cette fraîcheur, on sent aussi cette pureté quand on la boit, qui vient un peu presque nous régénérer, nous laver intérieurement. Il faut sentir cette eau couler en nous, qu'on va sentir aussi en se plongeant dans les piscines. Enfin, tout ça, il faut le vivre comme tel. Après, au fond de la grotte, qu'on prenne aussi du temps pour contempler ce petit murmure, cette petite source qui est rien du tout. C'est un petit filet d'eau, mais qui est puissante et forte par sa continuité, sa pérennité.
À ce stade de notre conversation, si vous permettez, Philippe Macleod, certains de nos auditeurs se disent « Oh là, cet écrivain, il fait de l'ésotérisme ». Mais je m'attache à lire ce petit passage de la page 87, où vous dites « Il existe une tendance, se référant à un imaginaire archaïque, à vouloir capter, au contact de la roche, des énergies bienfaisantes, aussi illusoires que stériles ». Cette phrase répond à cette objection que je vous faisais à l'instant.
Oui.
Vous ne faites pas dans l'ésotérisme.
Non, alors surtout pas. Alors, mais je sais néanmoins que je prends des risques. C'est vrai, en parlant de cette façon des signes naturels, puis en redemandant aussi de revenir un peu au contact, je prends des risques parce que je connais les tendances actuelles, le New Age, etc. Bon, les personnes qui sont là-dedans sont parfois très sympathiques, hein, et puis avec de très bons sentiments. Mais là, moi, je reste. Alors, c'est aussi, il faut le rapporter même à ces personnes-là qui sont un peu en marge de l'Église et qui vont chercher un peu des réponses ailleurs. Il faut leur apporter aussi la beauté de notre tradition spirituelle qui, elle, est quand même enracinée, qui est enracinée dans la création. Nos grands mystiques sont aussi des amoureux de la nature. Et puis allons à l'origine. Je veux dire, pourquoi le Christ parle en parabole? Pourquoi? Parce qu'il est le maître de la création, parce que c'est seul lui peut délivrer le sens. Quand il vous parle de la graine, il sait, c'est lui qui est à l'origine. Donc s'il peut comparer le royaume à la graine, c'est pas une fable, c'est pas une comparaison, c'est pas une métaphore, c'est parce qu'il sait que dès l'origine, il y a dans la création ce message. Et dès l'origine, dans la création, l'incarnation est aussi en route. Donc là, il est important pour nous aussi de revenir à ce monde élémentaire, mais avec notre foi. Et puis pour ma part, si j'en suis venu là, moi c'est à la fois dans une intimité toujours plus grande avec le Christ, nous l'oublions pas, le ressuscité, le vivant. Mais là aussi qu'on en prenne conscience. S'il est le vivant, avec un grand V, s'il est la vie, notre vie, eh bien, vivons-le.
Il nous reste quelques minutes, et je ne résiste pas à les consacrer à ce chapitre que vous écrivez sur Marie, sur la transparence de Marie. Cela rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur cette apparition très importante à Lourdes, où Marie révèle son nom, « Je suis l'Immaculée Conception ». On n'aura jamais tout dit sur ce sujet. Je suis l'Immaculée Conception, la transparence de Marie.
Non, on n'a jamais fini. Moi-même, ça reste toujours pour moi, je veux dire, une sorte de vertige. Hein, donc, vous voyez, bon, comme vous l'avez signalé au début, en 2010, j'avais déjà écrit pas mal de choses sur l'Immaculée. Là, j'y reviens, je creuse encore. En fait, je la laisse résonner. C'est pour moi c'est comme le pur azur. Et c'est aussi ce nom qui est donné au bout, puisqu'on a parlé beaucoup des signes naturels. Marie, dans ce vocable aussi, concentre un peu toute cette clarté, toute cette pureté de la source, ce rayonnement de la lumière. Elle concentre ça, elle spiritualise tous ces signes naturels et finalement, elle nous donne l'orientation de toute la création. C'est-à-dire, toute la création a une vocation spirituelle de transfiguration. Et Marie est la première ressuscitée, mais aussi la première transfigurée dans son corps. Et à Lourdes, en nous dévoilant ce nouveau vocable, elle nous dit bien plus que simplement le dogme de l'Immaculée Conception, parce que sinon elle aurait dit « je suis celle qui a été conçue immaculée », etc. Elle ne dit pas ça, elle dit « je suis l'Immaculée Conception. C'est-à-dire qu'elle en fait son nom, elle en fait son être. Et c'est là que la portée est immense. Et en plus, par ce nom, elle double cette conception par notre propre conception. Elle veut nous concevoir
à notre pureté,
c'est notre chemin. Elle nous montre, c'est notre horizon, elle est à la fois notre horizon et ce chemin qu'elle nous trace et puis qu'elle nous demande, comme elle l'a fait avec Bernadette, en passant justement par ce chemin de conversion, de pénitence, en creusant la boue, aller chercher la source qui est au fond de la boue, qui n'est jamais atteinte. Ça aussi, c'est important. Cette source est toujours claire. La boue vient la recouvrir, mais elle ne contamine pas cette clarté, cette pureté. Et c'est ça l'Immaculée. Et au fond de nous, il faut croire en cette grâce, il faut croire en cette source profonde qui est au fond de chacun de nous et qui sera, elle, le dernier mot. C'est-à-dire nos ombres, nos obscurités, notre péché ne sera jamais le dernier mot. Et ça, c'est le message essentiel de Lourdes. Lourdes, finalement, pourrait se résumer, et même toutes les paroles, tout ce cycle des apparitions, en un seul mot, c'est-à-dire rien n'est jamais perdu. À Lourdes, c'est le grand message de Marie qu'elle nous adresse à chacun de nous, c'est ça. Rien n'est jamais perdu.
Magnifique synthèse. Je vous invite à oser changer de regard tout en étant très fidèle à tout ce qui s'est déjà écrit et dit sur Lourdes magnifique, à changer votre regard grâce à vous, Philippe MacLeod, et ce livre, Les signes de Lourdes, un chemin d'universalité, paru chez Bayard. C'est un bel ouvrage, assez conséquent, de près de 300 pages, je crois. Votre style habituel est très poétique, il l'est ici également dans ce livre, mais avec une volonté de votre part d'être très accessible au plus grand nombre, et donc on le ressent véritablement. Merci pour cette rencontre.
Merci aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Vous venez d'entendre une émission réalisée avec l'écrivain Philippe MacLeod. Nous avons voulu lui rendre cet hommage. Philippe MacLeod est décédé ce 25 février 2019.
Présence, présence.
De passage à Lourdes.
Qu'est-ce qui saute au bout de ma ligne? Une truite. 50 kilos facile, hein. Alors je me bats, je mouline comme un furieux, finalement je la sors, et au moment de prendre la photo, je sens l'eau qui commence à monter. Alors tu penses bien, je me suis mis en sécurité, et donc, pas de photo, hein.
Calme apparent, risque présent. Près d'un barrage ou d'une usine hydroélectrique, le niveau de l'eau et le courant qui augmentent brusquement, ça peut être une bonne excuse, mais c'est surtout un vrai risque. Restez vigilant et respectez la signalisation. Plus d'infos sur EDF.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Chacun se doit à bien réjouir, car c'est un testament nouvel que tout le monde doit tenir, que tout le monde doit tenir. Quand par son orgueil Lucifer dedans l'abîme trébucha, nous conduisant tous en enfer, le Fils de Dieu nous racheta, le Fils de Dieu nous racheta. Incontinent que Dieu fut né, l'ange l'alla dire aux pasteurs, qui se prirent tous à chanter, sonnant chevrettes et tambours,
sonnant chevrettes et tambours.
Un bien petit temps, trois rois le vinrent adorer, portant la myrrhe avec l'encens, et l'or qui est fort à priser,
et l'or qui est fort à priser.
La virgule de Jésus-Christ et la mère qui le porta, celui qui
Jésus ressuscita,
il est
péché. déjà ressuscita.
À la venue de Noël, chacun se doit bien réjouir, car c'est un testament nouvel que tout le monde doit tenir.
Que tout le monde doit tenir.
Tiens.